les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un sujet grave, l'amitié. Je ne parle pas des faux amis sur les réseaux sociaux, mais des vrais amis, ceux que l'on compte sur les doigts, en général d'une main, ceux qui sont si importants pour traverser les épreuves de la vie ou tout simplement pour se construire quand on n'est encore qu'un adolescent. Complicité, fou rire, trahison, quelle place tient l'amitié dans votre vie? Pourquoi les déceptions en amitié peuvent-elles être aussi douloureuses qu'un chagrin d'amour? Où que vous soyez dans le monde et quel que soit votre âge, appelez-nous pour dialoguer dès maintenant avec nos invités. Michel Hermant, philosophe, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié un livre sur l'amitié, Lien d'amitié, une force d'âme. Pascal Mallet, bonjour.
Bonjour cher Emmanuel.
Vous êtes professeur de psychologie à l'université de Nanterre et vous avez publié L'amitié entre enfants et adolescents, une force pour grandir. Alors bien sûr, on ne parlera pas que des enfants et des adolescents puisque l'amitié par définition transcende les générations et bien sûr tous vos messages. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux aujourd'hui sur Facebook et sur Twitter. Énormément de messages, on va vous lire un petit florilège, qui sont d'ailleurs souvent amers, en tout cas interrogateurs sur cette valeur qu'est l'amitié et qui témoignent aussi de ce besoin vital. Beaucoup d'auditeurs comme Ellie Gay à N'Djamena par exemple au Tchad nous disent « Sans l'amitié, ma vie n'aurait pas de sens ». Beaucoup d'auditeurs donc qui paraphrasent Aristote, c'est bien ça Michel Hermant?
Oui, absolument.
La vraie citation d'Aristote il y a 20 siècles.
Oui, dans la tradition occidentale, il y a deux grands philosophes, Platon et Aristote. Bon, Platon est celui qui a fait la philosophie à partir de l'éros, hein, et Aristote est celui qui a fait la philosophie à partir de l'amitié. L'un nous a donné le langage de l'éros, Platon, l'autre nous a donné le langage de l'amitié, Aristote. Il y a cette très belle phrase d'Aristote, que je ne veux pas déformer, dans ce qui est sa meilleure traduction, « Sans amis, personne ne choisirait de vivre, utile tous les autres biens ». Ce qui montre que l'amitié autant que l'amour est à l'origine du désir de vivre, de la pulsion de vie en quelque sorte pour Aristote.
Seydou, lui, est en Haute-Casamance à Kolda au Sénégal, et ça c'est pour vous, Pascal Mallet. La vraie amitié, c'est celle qui se crée dans le royaume de l'enfance. En d'autres termes, l'ami n'est pas seulement celui qui vous rend service ou que vous aimez.
C'est très beau ce qu'il dit, Seydou. Et il a bien identifié le fait que les enfants sont capables de distinguer, à plus ou moins selon les enfants, de
et
distinguer
les âges aussi.
Et les âges, bien sûr, entre les vrais amis, et comme vous l'avez dit, qui sont forcément pas très nombreux, parce que les amis, il faut s'en occuper, il faut leur consacrer du temps, et puis les amitiés illusoires. Et donc ça veut dire que dès l'enfance, en effet, pas dès 2-3 ans quand même, hein, mais dès, disons, les années d'école élémentaire, à partir de 8, 9, 10 ans, les enfants vont être capables de cogiter suffisamment bien pour comprendre qu'une relation d'amitié, un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut partager des choses qu'on ne partagerait pas avec les autres, qui m'accepte tel que je suis, ça veut dire qu'il reconnaît ma valeur propre avec mes faiblesses. Et donc ça, c'est effectivement pas dès 2-3 ans, mais à partir de 8-9 ans, beaucoup d'enfants, la plupart, sont capables de penser l'amitié.
Conscience de l'amitié. Oulay, à Ziguinchor, également en Casamance, au Sénégal. Moi, l'amitié, j'y crois. J'ai rencontré des personnes magnifiques, des gens au cœur d'or. Mes meilleurs amis m'ont soutenue quand j'étais dans la douleur, m'ont conseillée quand j'étais à l'ouest. Et elles continuent de me pousser pour atteindre mes rêves. L'une d'entre elles, donc c'est une voisine qui parle et qui parle de ses copines. Donc, hein, l'une d'entre elles est un peu jalouse lorsque d'autres personnes me fréquentent, mais c'est parce qu'elle veut me protéger. Kenny, notre auditeur, nous dit « J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la modernisation, le boulot, Internet, on a de plus en plus de mal à nous faire des amis dans la vraie vie. Nous devenons plus virtuels. » Encore Miguel qui est à Brazzaville, au Congo-Brazza. « Je n'en ai jamais connu d'amitié. Je ne suis entouré que de gens égoïstes qui ne pensent qu'à profiter de moi. Je ne me plains pas, je ne m'en veux pas non plus. Je pense que c'est la nature même de l'être humain. » C'est terrible, non, ce témoignage de Miguel?
Oui, c'est quelque chose de terrible, dans la mesure où il a l'air de nous dire que le lien humain n'existe pas, en tous les cas qu'il est extrêmement difficile à établir.
C'est pas acceptable pour vous en tant que philosophe?
Si vous voulez, en tant que philosophe, pour moi, là, je me suis intéressé à l'amitié parce que je crois que dans ce lien bien particulier entre les individus, bat le cœur de la relation éthique. hein, c'est-à-dire du rapport à l'autre, et non pas de la morale.
Du rapport honnête.
Du rapport honnête, du rapport à partir de soi, avec un autre considéré comme un soi, et non pas dilué dans les idéaux du moi de chacun. Et je crois que c'est là vraiment que bat, si vous voulez, le cœur de l'éthique. La première chose que l'on peut dire au sujet de l'amitié, ce qui transparaît un peu dans le témoignage que vous venez de donner, Emmanuel, c'est que, effectivement, on a peu d'amis et qu'une liaison amicale, c'est un lien extrêmement difficile à établir. Et d'ailleurs, je parlais de Platon et d'Aristote au début de cette émission, mais au fond, pour Platon, l'éros n'est pas réciproque. Pour amitié, pour Aristote, la philia, l'amitié, c'est quelque chose de réciproque. C'est la grande définition, la grande différence. Voilà. Et donc,
entre l'amour et l'amitié.
Créer un lien qui est un lien à deux. L'amitié, ça se fait à deux. Bon. C'est un lien à deux. Et qui est un lien non pas égalitaire, mais un lien de réciprocité. C'est-à-dire qu'on postule que l'autre est dans les mêmes dispositions de sympathie. Ouais.
Alors qu'on peut être désespérément amoureux dans un lien à sens unique.
Peut être désespérément amoureux dans un lien à sens unique. Donc ce lien d'amitié, il n'est pas si facile que ça à établir. En revanche, ce qui est facile à établir sont sûrement des liens de copinage, des liens d'amitié intéressée. On pourra peut-être y revenir plus tard.
Appelez au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous nous suivez aussi en direct sur Twitter.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Nous accueillons un voisin qui nous appelle de N'Djamena au Tchad, Eric, pour parler de l'amitié, quelles que soient vos expériences. Alors, on espère pas trop d'expériences malheureuses. Bonjour, Eric.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour, les voisins.
Vous avez dit une phrase intéressante au standard, et Eric, c'est que vous avez dit qu'au Tchad, on dit que l'amitié est meilleure que la parenté. Ça m'a beaucoup surpris.
Oui, c'est un dicton de chez nous, au sud du Tchad. Ce dicton dit que l'amitié est meilleure que la parenté.
Oui.
Au fait, c'est pour dire ici que c'est quand un ami peut faire pour toi dans la vie, même ton consanguin ne pourra pas le réaliser pour toi, au fait.
Mais pourquoi donc?
Parce qu'avec un ami, vous pouvez tout échanger, que ce soit le moment dur, le moment de bonheur, la traversée du désert et tout. Vous pouvez vous partager, il y a toujours des solutions que vous pouvez trouver.
Mmh. Et puis surtout, vous vous êtes choisi peut-être, ce qui n'est pas le cas des liens du sang.
Ouais, c'est pas le lien du sang. et c'est un ami, vous vous êtes croisé peut-être à l'école, à l'université, au lieu du travail et tout.
Ouais. Et vous êtes dans cette situation-là, Eric ?
Oui, moi j'ai eu à trouver une amie auquel on a travaillé au centre du théâtre.
Mmh. Vous dites bien une amie alors que vous êtes un homme, hein, c'est bien cela ?
Exactement, une amie. On a travaillé 2 ans ensemble. Et après, quand elle a quitté la boîte, moi j'ai continué 3 ans plus tard. Quand j'ai perdu mon boulot de l'autre côté là-bas, je suis rentré en N'Djamena. Mais bon, bien avant, quand elle a quitté, même là, on est toujours en communication avec elle.
Oui.
Et quand je suis rentré en N'Djamena maintenant, lors de mes recherches de boulot, on s'est coincé. J'ai dit, mais toi, tu es venu en N'Djamena, tu ne m'as pas tenu informé et tout. J'ai dit, tiens, là, c'est une occasion. Si on s'est trouvé, c'est pas mal déjà. Mm-hmm. Sinon, je suis dans vos murs comme ça. Mm-hmm. Ainsi de suite, on a échangé, on a parlé de tout et rien. Elle me dit, mais... Maintenant, et dans leur boîte, là, ils ont lancé un avis de recrutement où la clôture devrait être aujourd'hui. Il dit, mais là, qu'est-ce que tu peux faire? Elle dit, tu pars rapidement faire constituer ton dossier, tu m'amènes ça moi-même, je vais mettre dans le tour et on verra ce qui va s'admettre. Ouais. Et aussitôt, le lendemain, 2 jours plus tard, ils m'ont appelé pour me dire que voilà, tu es convoqué pour un test et je suis admis au test là. Vous voyez?
C'est grâce à cette relation, c'est grâce à cette relation d'amitié, finalement, cette spontanéité.
Voilà. On a gardé cette relation jusqu'à maintenant. On est toujours ensemble. Mm. Elle est à sa famille. De l'autre côté, moi, j'ai ma famille et on se communique, on se rend visite. Vous voyez. Et ici au Tchad, c'est pas facile que ton frère de même sang peut te rendre ce genre de service. Mm-hmm. Parce que lui, il se préoccupe aussi de ce qui lui est intéressant de l'autre côté.
Est-ce que cette relation d'amitié, ça veut dire que cet ami qui vous a rendu ce grand service, il y a quelque chose de gratuit dans ce service ou est-ce qu'elle attendra quelque chose en retour ?
Même pas quelque chose en retour. Mm. C'est un service qu'elle a rendu parce que nous sommes des amis. Mm.
Merci beaucoup Eric de nous avoir appelé Pascal Mallet.
C'est un fabuleux témoignage de l'amitié, alors on pourrait dire de l'idéalisation de l'amitié, comme on la trouve déjà dans l'Antiquité, chez les philosophes de l'Antiquité, mais il souligne très bien aussi le paradoxe de l'amitié, c'est-à-dire qu'à la fois ils se sont choisis, c'est complètement gratuit, il n'y avait aucun but intéressé, et c'est ce qui fait la force du lien. Mais c'est du coup aussi parce que ce lien est fort qu'il va être efficace, qu'il va leur apporter quelque chose. Donc à la fois, c'est efficace, l'amitié, mais à condition que ce soit gratuit.
C'est ça, mais ça crée du service, bien souvent. Donc effectivement, c'est assez paradoxal.
On se protège.
Les amitiés, justement, sur le lieu du travail, beaucoup d'auditeurs nous en parlent, le lieu du travail ou le lieu d'études de l'université au travail. Je vous propose d'écouter le témoignage de Sophie, qui est directrice d'une agence de communication, proche de la soixantaine, au micro de Raphaël Constant. Elle est revenue sur un épisode douloureux de sa vie, celui d'une trahison amicale.
J'avais une 20aine d'années, je travaillais en freelance et j'ai rencontré une jeune femme avec qui à l'époque j'ai accroché, où nous avons travaillé ensemble et nous sommes devenus des amis, de vrais amis. Nous avons ensuite décidé de monter une société ensemble. À l'époque, moi j'étais très jeune, j'avais 22-23 ans et cette amie avait une 15aine d'années de plus que moi. Nous n'avions pas les mêmes vies, elle était mariée, elle avait 3 enfants, moi j'étais célibataire, plutôt festive, donc elle m'avait pris sous son aile, on partait en vacances ensemble, on faisait nos courses ensemble, on vivait beaucoup beaucoup de choses ensemble, nous avons formé un binôme un peu indissociable. Puis quelques temps après, moi je me suis à mon tour mariée et à mon tour j'ai eu des enfants. Et à ce moment-là, j'ai voulu prendre un peu de recul, pas me détacher d'elle parce que c'est pas le terme exact, mais avoir un peu plus ma propre vie et ma propre personnalité. Là, les choses ont commencé à se gâter un petit peu. Elle a pris ombrage de cette nouvelle liberté et du fait qu'à mon tour, je sois maman et que je sois moi sa chose. Et nos rapports se sont un petit peu dégradés. Au bout d'un certain temps, ça rejaillit sur la société et nous avons décidé de nous séparer. C'est là que elle m'a dépossédée d'une partie du capital social par des méthodes pas très honnêtes. Pour venir à bout de toute cette histoire, j'ai été obligée de prendre un avocat.
Comment vous avez réagi quand vous avez compris que votre amie vous trahissait ?
Quand vous donnez tout à une amie, que vous partagez tout et que vous vivez des moments formidables ensemble et que quelques années plus tard, tout est oublié, tout ça pour des histoires de profit et des histoires d'argent, c'est extrêmement douloureux et extrêmement injuste. Et à l'époque, je l'ai vécu vraiment comme un divorce, comme deux personnes qui se déchiraient et qui oubliaient tout ce qui avait pu être beau et vécu ensemble. On a tout mélangé. On a travaillé dans l'amitié, on a mélangé le travail, les soirées, la vie. Et je pense que c'est très mauvais. Elle n'avait peut-être plus besoin de moi. Elle avait eu sa reconnaissance amicale et elle voulait à ce moment-là une reconnaissance professionnelle. Et j'étais trop, parce qu'elle la voulait pour elle toute seule. Ça a duré quand même pendant plus de 8 mois. Et quand vous vivez en guerre pendant 8 mois avec quelqu'un, de 9h du matin à 6h le soir, c'est affreux, surtout quelqu'un qui vous avait tout donné, qui vous a tout donné à l'époque. C'est ça que j'ai pas compris. Donc je dormais pas, je mangeais pas, j'étais stressée, ça se ressentait dans ma vie familiale aussi. Ça m'a valu après d'être malade et d'avoir un long moment avant de pouvoir repartir à zéro. Voilà, un cancer tout bête, tout méchant. On m'a expliqué qu'il était survenu sûrement à cause de beaucoup de stress, de beaucoup d'inquiétudes. Ça se traduisait par des propos désobligeants, par de la méchanceté, par de la médisance professionnelle qui m'a beaucoup nui pendant un moment. À la fin, je devais rendre mon téléphone, je devais rendre ma voiture, je devais tout donner. Or, nous étions des associés, nous étions des partenaires, nous avions tout partagé. En fait, c'est la cupidité qui a amené à cette trahison. Et cette envie de puissance, cette envie d'être seule et de tout manager tout seul. Ce qu'elle a fait ensuite, je pense qu'elle aussi n'en a pas tiré beaucoup de bénéfices justement de toute cette trahison, puisque quelques années après, sa vie s'est effondrée personnellement et elle est décédée il y a quelque temps aussi d'un cancer fulgurant.
Et est-ce que vous avez essayé de retrouver cette amitié ?
Jamais, parce que la trahison avait été trop forte et trop méchante. Elle m'a appelée une fois quand elle a su que j'étais malade. J'ai pris le téléphone et je lui ai dit ces mots dont je me souviens encore. Si je suis malade aujourd'hui, c'est à toi que je le dois et je ne te pardonnerai jamais. Et c'est faux parce que maintenant je lui ai pardonné. Quand j'ai su qu'elle était malade, je lui avais envoyé un message en lui disant que je me souviendrai que des belles années. Et que je lui pardonnais.
Vous êtes émue ?
Oui, je suis émue parce que ça a été une très belle partie de ma vie et qu'en vieillissant, on a envie de se souvenir que des bons moments et pas de la trahison. Ça ne fait pas avancer, donc ça ne sert à rien.
On a reçu énormément de messages sur les trahisons aussi en amitié. Il y a Valence aussi qui est à Yaoundé au Cameroun qui nous dit l'ingrédient le plus important dans l'amitié, c'est sa résilience face aux déconvenus. Même Jésus-Christ a été trahi. Michel Hermant.
Oui, alors dans ce témoignage qui est très très poignant et qui présente un certain nombre de développements, enfin d'explications sur ce qu'a été cette amitié, je le mets en résonance avec les deux derniers témoignages que nous avons eus aussi. Finalement, chacun nous a dit, indirectement ou implicitement, il n'y a pas d'amitié dans la concurrence. Le poison de l'amitié, c'est la concurrence. Et dans le cas très particulier ici, moi je pense, mais c'est une hypothèse, il faudrait, je crois, un entretien psychologique pour en savoir un peu plus, mais que dès le départ, cette amitié était ce que j'appelle une amitié passionnelle. C'est-à-dire que lorsque il y a une amitié passionnelle, les deux amis sont trop proches l'un de l'autre. Et cette proximité est le contraire de l'amitié. Parce que je crois que l'amitié, c'est d'abord un lien réciproque, on en a parlé, mais c'est aussi un lien de respect. Et le respect, qu'est-ce que ça signifie ? La première signification de mon respect, c'est la bonne distance.
Mmh, c'est ça,
être à
c'est
bonne
ce que j'allais dire.
Avec...
Comment la trouver, cette bonne distance, hein,
voilà.
C'est pas
mais
simple.
Là... Oh, excusez-moi.
Oui, mais Pascal Mallet, je m'adresse là au psychologue.
Tout à fait. Alors, une amitié passionnelle, surtout, moi ce que j'ai compris, c'est une amitié exclusive. Or, en amitié, on ne peut pas avoir une infinité d'amis. Mais en même temps, il est préférable que l'amitié ne soit pas exclusive, sinon on devient extrêmement dépendant l'un de l'autre, et à un moment donné, ça risque effectivement de... C'est une force, l'amitié, pour le meilleur, mais éventuellement aussi, pas seulement pour le meilleur. Ça peut aussi, on peut se faire du mal en amitié, parce que précisément, ça mobilise des émotions très fortes, et cette trahison, On peut la retrouver chez des enfants, évidemment, à l'école ou à l'adolescence. Et il y a un cas tout à fait pathétique qui avait fait la une des médias il y a quelques années. Et la maman de l'adolescente qui avait mis fin à ses jours avait écrit un livre, Marion, 12 ans pour toujours.
Oui. Elle est venue dans cette émission.
C'était une jeune adolescente qui était en conflit avec plusieurs de ses camarades de classe. Et ce qui, sans doute, d'après la maman, a été le point qui l'a fait basculer in fine, c'est que sa meilleure amie, au dernier moment, l'a lâchée, l'a trahie effectivement pour prendre parti pour les agresseurs. Et malheureusement, elle ne s'en est pas sortie.
C'est ça. Et les adolescents, c'est vrai, se construisent souvent uniquement dans le miroir des autres, probablement plus que les adultes encore, d'où cette fragilité par rapport à l'amitié. Bertrand est en ligne avec nous. Il nous appelle de Douala, au Cameroun. Bonjour Bertrand, vous avez 22 ans, c'est bien cela?
Oui, c'est bien cela. Bonjour.
Alors, que vous est-il arrivé?
Alors, c'était un ami depuis l'enfance. Et il avait sa copine, et sa copine vraiment m'aimait que lui. Après, je suis alors tombé dans ses hésitations, et puis ça s'est passé comme vous comprenez.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous lui avez piqué sa petite amie?
Oui, c'était sa petite amie, la petite amie de mon ami.
Oui, vous lui avez volé sa petite amie, c'est bien cela, ou elle est tombée dans vos bras?
Elle est tombée dans mes bras.
D'accord.
Et depuis qu'il a su cela, il ne vient plus me saluer, il est devenu non plus ennemi. Je ne sais pas comment je peux faire pour me réconcilier de lui, parce que ça me fait vraiment mal. On faisait beaucoup de choses ensemble, on avait même un projet qu'on devait mettre à pied ensemble. Je ne sais pas comment je peux faire.
Et vous êtes toujours avec la fille en question?
Non, je ne suis plus avec la fille. Depuis qu'il avait su, j'ai lâché la fille.
Ah. Pascal Mallet. Bien dommage.
C'est bien dommage qu'il ait perdu. Il a tout perdu. Il a perdu la fille et il a perdu l'ami. Peut-être que la fille, c'était quelque chose d'un peu éphémère. Et peut-être que là, il va pouvoir renouer la relation d'amitié. Si c'était une relation d'amitié depuis l'enfance, très forte, à mon avis, il y a sûrement quelque chose à reprendre.
Comment renouer le fil de la discussion?
Eh bien, probablement... Parce
qu'il y a quand même une vraie blessure. Hein.
Oui, mais une solution serait sans doute qu'ils soient amenés à faire quelque chose ensemble. Parce que il y a des différences en moyenne entre garçons et filles dans l'amitié. Et c'est vrai que les garçons ont souvent un peu de mal à se parler, à se faire des confidences, à exprimer leurs sentiments. Alors là, manifestement, il y a des sentiments qui ont besoin d'être exprimés. C'est « je regrette qu'on soit séparés, j'aimerais à nouveau être ami avec toi ». C'est pas facile à dire comme ça. Mais peut-être qu'il peut trouver un moyen, des actifs ou des tierces personnes qui peuvent les amener à être dans un groupe amical pour faire quelque chose ensemble. Et puis, je ne serais pas étonné du tout que les choses reprennent leur cours, comme par le passé.
Ce qui est sûr, Bertrand, c'est que votre ami hésitera la prochaine fois à vous présenter sa nouvelle petite amie.
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de ses amis qui m'ont dit qu'il a une nouvelle copine. Et il ne veut même plus entendre la fille. Il ne veut plus aussi m'entendre. Quand il passe, je passe, il ne veut même pas me saluer.
Bon, eh bien, il faut essayer d'aller lui parler, hein, je crois. Pascal Mallet, c'est ce que vous lui préconisez. Merci d'avoir appelé Bertrand. Ce témoignage d'un jeune garçon, 22 ans, jusqu'à quel âge dans la vie, en fait, on est particulièrement fragile par rapport aux histoires d'amitié, à l'image que vous renvoient les autres dans la tribu de l'amitié?
Je ne pense pas qu'il y ait de limite d'âge. Le témoignage de la dame qui a appelé avant, qui avait l'âge adulte, a souffert d'une blessure d'amitié très profonde. Donc il n'y a pas d'âge limite où l'amitié serait sans risque. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes de la vie, et en plus il y a des périodes de la vie où c'est plus facile sans doute de se refaire des amis. Parce que quand on est par exemple étudiant, on est entouré de jeunes de son âge, et il y a beaucoup de mouvements. Quand on est à l'école, c'est pareil, il y a un groupe, on est presque contraint, on l'est de fait à l'école, contraint de se trouver au moins une ou un ami dans le groupe classe. Alors que dans la vie professionnelle, ensuite à l'âge adulte, On peut être entouré effectivement uniquement de collègues avec qui on a des relations tout à fait utilitaires, en quelque sorte, et ne pas arriver à se faire d'amis. Donc je pense que c'est plus difficile peut-être, mais c'est aussi une question de capacité individuelle. On sait qu'il y a des personnes qui ont du mal à se faire des amis et d'autres qui s'en font très facilement.
Est-ce que les amis sont absolument, pour le psychologue que vous êtes, nécessaires à la construction de l'individu? C'est-à-dire que quand vous voyez des enfants, des adolescents, vous vous préoccupez immédiatement de savoir, pour évaluer s'ils vont bien ou pas, de savoir s'ils ont des amis ou c'est d'abord la famille pour se construire?
Spontanément, les psychologues se tournent, parce que d'abord c'est souvent la maman qui amène l'enfant, donc on va d'abord se soucier de ce qui se passe dans la famille avec papa et maman. Mais les psychologues qui font bien leur travail, effectivement, vont très vite chercher à savoir si l'enfant a un ou plusieurs amis. Ce qui n'est pas forcément facile à savoir, car l'enfant porte un regard très subjectif quand il est. Et quand il est jeune, ce regard subjectif peut être illusoire. Il peut penser qu'il a un ami, alors que la relation n'est pas réciproque du tout. Mais il est capital, effectivement, pour un enfant qui passe l'essentiel de sa journée entouré d'enfants de son âge, d'avoir dans ce groupe au moins une ou deux relations vraiment fiables, préférentielles, avec lesquelles il a des émotions positives, de joie partagée, et qui il se sent compris. L'amitié, c'est capital, effectivement, que les psychologues se soucient de ce que l'enfant vit dans ce domaine-là. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de travaux qui montrent que c'est un besoin biologique chez l'animal, dans différentes espèces animales, que ce soit des dauphins, des éléphants ou des primates non humains, ou même des oiseaux. On constate que les amitiés se mettent en place gratuitement, là aussi, pour elles-mêmes.
Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas, pour que le ciment soit le plus solide possible dans l'amitié, des expériences douloureuses finalement? On le voit à travers les guerres qui détruisent les sociétés. J'accueillais un écrivain syrien hier. Tous racontent que dans les gens qui survivent à ces guerres, ils racontent « j'ai été hébergé par un ami pour échapper à des arrestations, j'ai passé la frontière grâce à un ami » et ça devient des amitiés indéfectibles, sauf par la mort.
Oui, alors là, on est en train de décrire, et Pascal vient de décrire, au fond, diverses formes de liens d'amitié. Au fond, nous possédons un seul mot, hein, le mot amitié, pour dire la notion du lien, mais elle se décline en plusieurs types de relations. Et je crois que ce que Pascal vient de décrire, c'est au fond la nécessité d'avoir des copains. Mais c'est une nécessité presque quasi biologique, avec les génétique pratiquement, avec les exemples que vous nous avez donnés. Moi, je tiens que l'amitié, c'est un véritable choix. Un véritable choix qui repose sur ce que j'appelle un coup de sympathie, hein, en parallèle avec le coup de foudre. Mais ce coup de sympathie demande ensuite ce que j'appelle une force d'âme, c'est-à-dire une volonté. Et cette volonté s'exprime indirectement par le souhait, la volonté de ne pas juger l'autre. Ça, c'est un phénomène conscient, c'est pas un phénomène, disons, de inconscient ou un phénomène qui provient de nos pulsions. Et donc, quant à votre question sur les liens très particuliers qui se créent dans des situations difficiles ou dangereuses, ça crée, je crois, le compagnonnage. Hein. Le compagnon, c'est celui, étymologiquement, avec qui on partage le pain, avec qui on partage ce qui fait la vie, enfin, ce qui nourrit la vie. Et effectivement, ça donne lieu, je crois, à des liens après indéfectibles, parce que on a regardé dans la même direction. Dans une situation extrêmement difficile, une guerre, un conflit, les témoignages des camps de concentration, Simone Veil, dans son beau livre Une vie, raconte
bien sûr,
des témoignages
c'est à elle que je pensais aussi.
D'une puissance incroyable. Et d'ailleurs, elle est restée amie.
Exactement, hein, d'anciens déportés qui continuent de se voir plusieurs dizaines d'années après.
Le lien est indéfectible parce que c'est un lien qui s'est noué au fond,
au
plus triste et au plus dur de l'humanité.
Et parfois, d'ailleurs, des gens qui ont vécu cette horreur commune et qui n'ont même plus besoin de se parler.
Absolument. Parfois, l'amitié, c'est un simple regard. C'est une simple attention. C'est parfois un tout petit mot. Je veux dire, il y a des manières extrêmement belles, délicates, subtiles de dire l'amitié sans faire de phrases. Alors oui, je crois qu'il y a disons, des gradins de l'amitié. Mais le français possède des mots, hein, copain, pote, camarade, etc., etc., qui sont souvent confondus parce qu'on les renvoie à la même notion, oui, qui est le mot amitié. Le mot amitié, comme le mot amour, vient du latin amare, aimer. Vous voyez, donc il y a une origine.
Et des subtilités dans l'argot, copain, copinage. Attention, pas tout à fait la même chose. Alors vous nous appelez, quelle que soit votre situation et vos histoires d'amitié et toutes ces gradations dont parlait Michel Hermant, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Le roi est à Yaoundé, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Le roi, vous souhaitez nous parler de cette amitié basée sur les intérêts à l'université, dites-vous.
Oui Emmanuel, déjà je me ciblais sur un cas précis qui me concerne. J'ai connu un ami depuis la classe de cours préparatoire. Nous avons cheminé ensemble. Personne ne pouvait imaginer que nous étions des amis. Tous ceux qui nous voyaient ensemble savaient que c'était la famille. Du primaire au lycée, tout allait très bien. Et après le baccalauréat, moi, je ne suis pas issu d'une famille aisée.
Oui.
Par contre, lui, oui. Et je suis fils unique. Je m'accrochais trop aux amis. Mais lui, il était très particulier à moi. Je m'accrochais à lui pour compléter, pour avoir un frère, quoi.
Bien sûr.
Alors que lui, ils sont à leur papa 27.
Mmh.
Donc, alors... à l'université, l'amitié a commencé à se dégrader. Et jusque-là, moi, je forçais. Je faisais l'effort d'être toujours proche de lui. Je faisais tous ces efforts. Et en 2013, il me présente sa fiancée. Et il dit qu'il va se marier. Alors, il vient me faire comprendre. Je compte sur toi. Tu es un animateur radio. Tu dois me soutenir en tout. Alors je me suis battu, j'ai fait ce qu'il fallait, que ce soit le mariage traditionnel, je me suis donné à fond. Le mariage civil, je me suis donné, il m'a choisi comme témoin de son mariage. Alors
Et ensuite plus rien, silence radio après son mariage, c'est ça en fait?
Oui, après le mariage, je suis allé avec mon épouse parce que moi je me suis marié en 2009, lui en 2013. Je suis allé avec mon épouse, elle s'est sacrifiée, elle a fait tout ce qu'une femme peut faire pour accompagner son frère. Son beau-frère, oui. Parce que ma femme ne savait pas, oui, que c'était mon ami.
Uh-huh.
Je vous dis, de 2009 à 2013, elle, oui, ne savait pas que c'était un ami.
Vous parliez de lui comme votre frère. Mais d'ailleurs, c'est fréquent, hein, sur le continent africain, quand on dit mon frère, le mot a une acceptation, Emmanuel, très très large.
Exactement, Emmanuel. Et après le mariage, nous sommes rentrés tranquillement. J'attendais juste un petit message. Je n'ai pas eu de message. Une semaine, deux semaines, un mois. Moi, j'ai pris sur moi de l'appeler. J'étais gêné. Je l'appelle parce qu'ici en Afrique, quand on se marie, après une semaine ou trop, vous appelez vos amis les plus proches, vous échangez à la maison, surtout les amis qui sont déjà mariés.
Comment vous expliquez finalement cette rupture brutale et où vous n'avez pas vraiment eu d'explication de la part de cet ex-frère ?
Je n'ai pas eu d'explication, Emmanuel, mais j'ai fait des recherches. Puisque je l'appelais, il ne prenait pas. J'appelais son épouse, elle ne décrochait pas.
C'est ce silence qui est le plus dur à accepter pour vous ?
Très dur. Et je suis allé vers certains proches. Il y a eu beaucoup de choses, mais une personne m'a fait comprendre que mon frère disait que j'étais jaloux de son mariage parce que son épouse travaillait. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis marié en 2008. Si en 2013, je suis jaloux d'un mariage, j'ai déjà trois enfants avant qu'ils se marient. Qui a avancé plus que l'autre? Moi, je ne peux pas... Je ne peux pas être jaloux d'un mariage où j'ai investi plus de 200 000 francs.
Vous en parlez comme si c'était hier, finalement. Toutes les dates sont gravées dans votre tête.
Elles sont gravées dans ma tête, vraiment, Emmanuel. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a choqué, ça m'a beaucoup fait mal. Alors, j'ai forcé, je l'appelle. Un jour, j'apprends que son épouse avait fait un bébé qui avait eu beaucoup de difficultés. Je l'appelle, il me pose la question au téléphone, c'est qui ? Alors que je l'appelais avec mon téléphone.
C'est ça, c'est ce qui s'appelle ne plus exister, hein, auprès d'un ami. Merci beaucoup de nous avoir appelé, le roi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment tout de même, Pascal Mallet, où il faut faire le deuil d'une amitié, quand on n'est plus reconnu dans le regard de l'autre ?
Oui, oui, l'important c'est d'avoir au moins une, et si possible plusieurs relations d'amitié. Mais ce qu'on sait, c'est que les enfants, au cours d'une année scolaire, par exemple, peuvent très bien changer d'amis, et s'ils conservent au moins une relation d'amitié, ils n'auront pas de problème dans la classe. Par contre, ceux qui vont se trouver en difficulté sont ceux qui vont se retrouver à un moment donné dépourvus d'amis. Donc l'important, c'est d'en avoir. Et ce qui est très tout remarquable parmi tous ces témoignages, c'est quand même que ce sont des plaintes, bien souvent, à propos d'expériences douloureuses de l'amitié. Alors on peut dire, à la fois, ça voudrait dire que l'amitié est une expérience négative, mais non, pas du tout. C'est au contraire qu'ils ont un vrai besoin, comme le disait Michel, non seulement de copinage, de relations de copinage que tout le monde a plus ou moins, mais ils ont besoin d'une vraie relation d'amitié élective, choisie effectivement.
Ouais.
C'est ça
néanmoins, alors, on a énormément d'auditeurs qui veulent nous appeler. On va vous demander, les voisins, d'être le plus bref possible, parce qu'en général, ce sont des histoires extrêmement compliquées et très à vif, finalement. Michel nous appelle de Kinshasa, de République démocratique du Congo. Bonjour Michel.
Bonjour Emmanuel, bonjour à votre invité.
On vous écoute Michel, vous êtes en direct.
En fait, moi, je voulais juste témoigner. Moi, je me dis, mon meilleur ami, c'est mon chéri. Parce qu'avec lui...
c'est très simple, finalement.
Oui, oui. Avec lui, je partage tout. Je partage tout. Comme l'a dit votre invité, dans les milieux professionnels, c'est difficile de se faire des amitiés. Ça, c'est vrai.
On peut quand même.
Alors, d'accord. Mais avec mon chéri, je partage. Donc, c'est mon meilleur ami.
Donc, c'est le conseil que vous donnez à toutes les autres voisines, c'est ça, de faire de leur mari ou de leur concubin leur meilleur ami.
Justement.
Oui. Merci de nous avoir appelé, Michel. Mais alors aujourd'hui, dans nos sociétés où se développent également ce qu'on appellerait des amitiés sexuelles, hein, des amitiés qui dérivent un peu temporairement quand on n'a pas trop d'autre chose dans sa vie sentimentale. Comment vous voyez ces évolutions, Michel Herman?
Alors pour vous répondre, je vais faire référence aux deux derniers témoignages que nous avons eus. L'avant-dernier, là, montre bien une chose, je crois. C'est que, bon, on le sait, la condition humaine est tragique. C'est peut-être un gimmick de philosophe, mais c'est aussi une réalité. Et les amitiés ne se font qu'entre semblables. C'est ça qui est terrible. Alors, on peut très bien être de milieux sociaux différents et être semblable. Hein, c'est pas simplement le milieu social qui fait qu'on est dissemblable. Mais les amitiés se font entre semblables. Et dans l'avant-dernier témoignage qu'on a eu, effectivement, les deux amis n'étaient pas semblables. Et à un moment, lorsqu'il y a eu des changements dans leur vie, un mariage, etc., eh bien, des passions tristes, des émotions tristes se sont mises au jour, comme la jalousie.
C'est terrible en même temps ce que vous dites, parce qu'il y a toujours eu, historiquement, dans les sociétés, des tentatives pour organiser une mixité sociale dans l'amitié, à travers des clubs de jeunes, des clubs sportifs, notamment.
Alors, absolument. Mais alors, les clubs, parlons de clubs sportifs, c'est une manière peut-être de répondre indirectement ou de commencer à votre question. Les clubs sportifs, il faut des espaces d'amitié à certains moments, hein, surtout lorsque une société veut construire effectivement du rapprochement. Hein, le lien social ne se fait pas qu'avec la loi, il se fait forcément avec les émotions des individus. Le club sportif, c'était uniquement des amitiés masculines. Le café, c'était des amitiés masculines. Aujourd'hui, en France en particulier, depuis quelques années, il y a un espace qui est un espace d'amitié féminine. C'est les pots, là, les apéros entre copines, hein, dont les hommes sont exclus, mais ce sont des moments dans la journée ou en fin de semaine où des filles se retrouvent. Donc les espaces sont des espaces souvent de sympathie partielle. C'est-à-dire qu'on forme un petit groupe de copains, d'amis, de compagnons, etc., qui exclut indirectement les autres. Il n'est pas question de les exclure a priori, mais dans les faits, on les exclut. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, c'est de l'ordre du semblable. Qui se ressemble, s'assemble. L'amitié n'y échappe pas. C'est pour ça que ça doit donner lieu aussi à une réflexion philosophique. Et enfin, dans ce que l'on vient d'entendre, là, moi, le témoignage nous a amusés, mais en fait, je le trouve très profond. Parce que je crois qu'au-delà de la séduction et de la passion, ce qui fait le couple, c'est aussi les vertus de l'amitié, c'est-à-dire le respect, la réciprocité, la bienveillance. Et j'entends parfaitement que l'on dise, eh bien, mon meilleur ami, c'est mon compagnon, ou ma meilleure amie, c'est ma compagne. Baby.
accueille un autre auditeur. Ils sont très nombreux à vouloir aussi vous poser des questions. Lassana nous appelle de Libreville, au Gabon. Bonjour Lassana.
Et bonjour madame.
Alors vous avez une amitié forte avec un garçon et vos épouses sont extrêmement complices, vos épouses respectives. Mais je crois qu'il y a eu une petite ombre au tableau. Racontez-nous mais brièvement Lassana s'il vous plaît.
D'accord, donc merci de m'avoir donné la parole. Et j'ai une amie qui on est entendu, on est tellement complices dans notre amitié, on s'aimait tellement entre nous. Pendant 8 ans, au bout de 8 ans, hein, il y a eu des succions entre moi et lui. Il m'a soupçonné de quelque chose que je ne me reconnais jamais. Et malheureusement, pendant 8 ans, on a lié non seulement nos enfants, nos familles, nos frères, nos sœurs, ma femme à elle, à sa femme. Ils sont devenus tellement aussi complices comme nous, et que c'est-à-dire que nous fréquentons de matin, midi et soir, et n'importe quelle heure ne suffit pas jusqu'à nos femmes. Il reconnaît déjà, il ne peut même plus discuter de savoir si je ne suis pas rentré ou si lui oui. Il n'est pas rentré.
Et ce qui veut dire que depuis que cette amitié a été brisée à cause de ce soupçon, hein, on ne va pas être indiscret, vous demander sur quoi ça porte, mais en tout cas, finalement, ce sont deux familles aussi qui se sont complètement séparées derrière.
Exactement, c'est toute la famille à nos soucis, ça m'a fait tellement mal et on s'est samaillé un peu et on s'est passé qu'un de sécurité c'est lui et malheureusement moi j'ai beaucoup souffert sur ça parce que je l'aimais beaucoup et son absence me manque beaucoup. Malheureusement, je l'ai appelé pour lui demander pardon. Moi, je ne supporte pas qu'on ne se parle pas et qu'on ne se fréquente pas.
Vous posez une question importante, Lassana, et merci de nous avoir appelé. C'est quand il y a eu des trahisons, des soupçons, quel est l'ingrédient pour qu'il y ait pardon dans l'amitié finalement?
Alors, c'est intéressant cette notion de pardon dans l'amitié parce que très tôt, je parlais tout à l'heure de l'âge de l'école élémentaire, donc à partir de 8-9 ans, pour les plus jeunes, les enfants vont arriver à comprendre que ce qui différencie une vraie relation d'amitié, au sens fort du terme, pas du simple copinage, c'est pas le fait qu'on se dispute pas. Au contraire, objectivement, on se dispute plus en amis, entre amis qu'entre non-amis. Parce qu'on a plus d'occasions d'être ensemble, de batailler, de discuter sur ce qui nous semble important. Mais les enfants comprennent à partir de cet âge-là que l'ami, entre amis, on se pardonne. C'est une des propriétés pour eux d'une vraie relation d'amitié. Ça veut dire qu'on va chercher à surmonter le mal qu'on a pu se faire pour pouvoir préserver la relation. Et ça, effectivement, je parlais tout à l'heure de l'amitié comme besoin biologique. Chez l'être humain, ça va évidemment assez loin. Et chez l'animal, on a aussi des exemples d'ailleurs de pardon, de conduite de pardon, même si évidemment, ce n'est pas conceptualisé comme tel. Mais un des ingrédients aussi de l'amitié sur lequel que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'exemple de l'amitié dans le dénuement. L'amitié, on considère de plus en plus qu'effectivement, c'est lorsque... Bon, il y a l'adage classique, c'est dans les moments difficiles qu'on se rend compte sur qui on peut compter, qui sont les vrais amis. Donc en effet, dans des moments difficiles, on va pouvoir activer les liens d'amitié et faire le tri entre ceux qui vraiment restent dans ces moments-là et ceux sur qui on ne peut pas compter. Et dans l'exemple que vous avez cité tout à l'heure de Simone Veil et de son amitié avec Marceline Loridan, ce qui est très frappant, c'est qu'elles se sont connues dans le dénuement le plus extrêmes, avec la crainte d'une mort imminente, et qu'elles ont retrouvé ce lien quelques années après le retour des camps, elles ont conservé ce lien, et c'était une relation tellement élective que lorsque Simone Veil, raconte-t-elle dans ses mémoires, devait prendre une décision politique importante, elle éprouvait le besoin de retrouver Marceline Loridan, parce que avec une vraie amie qui nous a connus dans le dénuement le plus extrême, on ne triche pas. On sait exactement qui l'on est, l'un l'autre.
Une question d'une auditrice, Oumi, qui est à Dakar, qui fait référence à ce coup de sympathie pour définir l'amitié que vous disiez, Michel Hermant. Une amie avec laquelle j'ai eu un coup de cœur, comme une évidence. Peut-on réellement avoir des coups de cœur en amitié? Il ne s'agit pas de coups de foudre, on est bien d'accord.
Mais elle parle de coup de cœur dans quel sens? C'est-à-dire synonyme un peu de ce que j'appelle la sympathie. Sans doute. Oui, moi je crois que pour que l'amitié se noue, il faut quelque chose
de très fulgurant,
qui se passe,
de très rapide,
souvent de très fulgurant, d'immédiat, qui est ensuite réfléchi, bien sûr, hein, et qui qui noue le lien, ce que j'appelle le coup de sympathie. Ça peut s'appeler aussi coup de cœur. Alors moi, ce que j'observe, un petit peu aussi, c'est pas tout à fait votre question tout à l'heure, mais un petit peu, c'est que sans doute la manière de vivre les amitiés entre les hommes et les femmes est un peu différente. Il y a des codes, même si on n'en est pas tout à fait conscient, il y a des codes dans lesquels on vit l'amitié.
Il y a plus de coups tordus chez les filles ou pas
Alors là, je n'en saurais pas, j'en ai pas l'expérience. Mais ce que je peux dire,
c'est que souvent,
je sais pas, par exemple, les amis s'appellent mon vieux. Les filles ou les femmes entre elles vont se dire ma chérie, par exemple. Hein, voilà. Donc, disons qu'il y a un langage de l'affectivité et des signes, des gestes d'affectivité qui sont beaucoup plus déliés dans les amitiés féminines que dans les amitiés purement masculines. Quant aux amitiés mixtes, je crois que précisément, c'est une véritable expérience de l'altérité. Sans doute
il y a des sociétés qui ne permettent pas ces amitiés mixtes d'ailleurs.
Alors il y a des sociétés qui ne permettent pas ça et il y a des sociétés qui d'une certaine façon les valorisent, c'était votre question
tout à l'heure. En tout cas les entachent à chaque fois d'un soupçon.
Alors les entachent d'un soupçon mais le vivent bien. Moi il y a une expression que j'aime bien, elle est légère, hein. C'est une expression en portugais brésilien qui parle des amitiés colorées. Qu'est-ce que c'est que les amitiés colorées? En fait ça n'a rien à voir avec l'amitié, ce sont les amours sans engagement en quelque sorte. Mais on appelle ça par une sorte de retournement et de euphémisme amitié colorée. Alors implicitement ça veut dire aussi beaucoup de choses, comme si l'amitié était grise et qu'il fallait le sexe pour qu'elle ait de la valeur, ce qui est bien sûr tout à fait faux, hein. Mais je pense que c'est un fantasme globalement, hein, bien que les rapports entre les hommes et les femmes selon les sociétés sont bien sûr différentes, mais je pense que c'est un peu un fantasme.
C'est-à-dire,
car
qu'est-ce qui est un fantasme?
D'imaginer une amitié qui soit aussi une amitié sexuelle,
ouais. Hein.
Je pense qu'à un moment
une amitié mixte peut réellement être uniquement une amitié mixte. Juste en une phrase, parce que vraiment il nous reste quelques secondes, quel est le secret selon vous de la longévité des amitiés? Pourquoi certaines personnes ont des amis de plus de 20 ans et pas d'autres? Vraiment en une phrase s'il vous plaît,
en une phrase.
Pascal Mallet.
Eh bien, le secret de l'amitié, c'est l'empathie. Et alors justement, c'est pas forcément un coup de sympathie, c'est pas forcément immédiat. L'amitié peut, comment dire, se construire à bas bruit. Et à un moment donné, on va s'apercevoir qu'il y a une vraie amitié. Et ce qui va en faire la longévité, c'est comme dans le couple, dans le couple d'amour, dans le couple matrimonial, c'est l'empathie. L'empathie
réciproque.
Merci
à vous deux. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission éducation. On parlera de la place des concours et des compétitions. Concours de grandes écoles, compétitions de musique, de cuisine à la télévision aussi. Pourquoi ces épreuves sont-elles devenues synonymes de mérite? Faut-il vraiment préparer les jeunes à la concurrence plutôt que d'apprendre à travailler ensemble? Quand est-on le meilleur? À plusieurs ou seul? Réponse demain avec vous, les voisins et les voisines.